de la parole. Avant ça, on veut aussi prendre un temps pour prier pour les enfants qui ont, eux, un temps spécial pour eux maintenant. Et donc, c'est pour les enfants en particulier de 4 à 11 ans. Donc, là, on appelle ça la mission lumière. C'est la mission lumière. Les enfants, vous êtes prêts pour la mission lumière? Et donc, c'est Mathieu et Astrid, je pense, qui vont les accompagner aujourd'hui. Donc, si vous avez des enfants de 4 à 11 ans, vous pouvez leur laisser, on peut leur faire confiance, je vous assure. Et on veut juste prier pour eux, les bénir avant qu'ils aient ce temps-là. Je ne sais pas si vous voulez venir devant ou si... Sentez-vous libre. Comme vous voulez. S'ils ont envie ou pas. Comme ça, tout le monde vous voit. Donc, c'est pour les 4-11 ans. Si vous avez des plus petits, on a une salle en bas pour les bébés, mais là, il faut que les parents soient avec. Pour l'instant, on n'a personne pour vous les surveiller. Mais il y a une salle qui est prévue pour ça, avec table allongée et tout ça. Allez, on va prier pour eux, tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces enfants, ces familles que tu as placées au milieu de nous. Merci pour ces tout-petits, Seigneur, et ces plus grands, et ceux qui sont encore à l'âge de l'enfance, mais... Seigneur, nous voulons les accueillir et les bénir comme toi, Jésus, tu l'as fait lorsque tu étais sur cette terre. Leur dire qu'ils ont toute la place dans notre Église. Et Seigneur, te demander maintenant que tu les accompagnes dans ce temps d'enseignement, que ton Saint-Esprit se manifeste par eux, qu'il les enseigne, qu'il leur transmette ta parole sûre et solide. Que tu sois aussi avec Mathieu et Astrid qui les accompagnent. Que ta présence et ta sagesse soient avec eux. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Et puis on a aussi un groupe d'ados qui se réunit tous les 15 jours. Aujourd'hui, les ados, c'est eux qui faisaient le service. Donc on est reconnaissant pour cela aussi. Aujourd'hui, c'est Adnan, qui fait partie de notre conseil d'église, qui va apporter la parole de Dieu. Et... je vous invite juste à prier pour lui et prier pour nous avant de se mettre à l'écoute de ce que Dieu a mis sur son cœur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces écritures que tu as inspirées, cette parole vivante qui est toujours d'actualité pour nous, même si elle a été mise par écrit maintenant il y a 2000 ans ou plus. Et Seigneur, merci. Merci de nous nourrir à travers cette parole. Nous voulons dire ce matin que nous avons faim de la parole qui sort de la bouche de Dieu et que c'est ça qui est notre plus importante nourriture. Alors viens nous remplir, Seigneur, de ta parole. Viens nous remplir par ton Saint-Esprit, qu'elle soit imprimée au fond de nos cœurs, qu'elle soit imprimée dans nos vies, que nous puissions la mettre en œuvre et la mettre en pratique dans ta grâce. Que tu bénisses aussi Adnan qui va la transmettre ce matin et que tu sois avec lui par ton Saint-Esprit, que tu l'encourages et que tu nous encourages à travers lui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Bonjour à tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, comme a dit le pasteur ce matin, donc nous avons vécu ces jours-ci des temps de jeûne et prière, 3 jours de jeûne et prière. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux, la prière. C'est quelque chose de pouvoir, en tant qu'Église, vraiment partager ce que l'on a à cœur. Et vraiment, le Seigneur fait grâce. Et le Seigneur travaille son peuple. Il travaille de différentes façons. Il nous enseigne, il nous interpelle. Et vraiment, on est au bénéfice de cette grâce. Le Seigneur nous a interpellés durant ces 3 jours. Où on a pu, voilà, on a pu prier les uns pour les autres, intercéder, se laisser guider par sa parole, et également être interpellé par son Saint-Esprit. Parce qu'il y a le temps de la prière où on s'adresse à Dieu par nos mots, ce que le Seigneur nous met à cœur. Mais il y a aussi des temps de silence où on est là pour écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire, parce que Dieu parle même dans le silence. Et j'ai retenu deux, notamment on a eu plusieurs passages. J'en ai retenu deux qui ont particulièrement interpellé mon cœur. Donc dans Jean 6, au verset 37, le Seigneur nous parle, « Tout ce que le Père me donne, donc c'est de la bouche même de notre Seigneur, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Amen. Et toujours dans Jean, au chapitre 14 et le premier verset, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Amen. Voilà, dans le cadre également ces derniers temps, le Seigneur m'interpelle dans le cadre de ma relation avec lui. Le Seigneur m'interpelle par... honnêtement, c'est vrai que pour moi, bon, je prie le Seigneur, mais c'est vrai que j'ai envie de dire ce n'est pas naturel. Enfin, d'un certain côté, oui. Je parle à Dieu comme voilà de manière assez naturelle pour des choses de tous les jours, mais c'est vrai que j'ai du mal de temps en temps, souvent même, on va dire à rentrer dans une intimité profonde avec le Seigneur. Voilà, c'est j'ai envie de dire pour me faire comprendre, c'est plus facile pour moi, on va dire, de méditer la parole, de lire la parole, de voilà, me questionner sur la parole, de me laisser questionner aussi, mais ce lâcher prise que le Seigneur attend de chacun de nous, j'ai un peu plus de mal, j'ai vraiment une sorte de blocage. C'est comme si je ne voulais pas encore tout lâcher et un peu tout ne pas que le Seigneur prenne toute la place dans ma vie. Mais le Seigneur travaille, il est bon. Et le Seigneur travaille, et le Seigneur... Et je sais que ce qui m'a mis à cœur... En plus, ça vient juste après ces jours de prière. Je veux vous le partager, parce que nous sommes tous frères et sœurs, pour pouvoir qu'on puisse ensemble, voilà, apprendre avec le Seigneur. Parce que l'expression, la prière, c'est la respiration du chrétien. Mais c'est pas qu'un mot, c'est une réalité, et c'est également le moteur de l'Église. Une Église qui ne prie pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc une église se doit de prier. Il y a maintenant un groupe d'intercession qui intercède un peu avant le culte, qui intercède un peu, c'est une bonne chose, vraiment, on a besoin de la prière. En effet, la prière, c'est l'acte le plus répandu, dans toutes les religions, dans toutes les traditions, vous trouverez des prières. Mais il est toujours question de prière, de prière apprise souvent par cœur, de phrases répétées, de mérite à gagner pour gagner un salut, mais on n'en est pas très sûr, pour parler, s'adresser à un Dieu lointain, mais on ne le connaît pas trop, on ne sait pas vraiment s'il accepte ou pas cette prière. Par contre, la prière dans la parole de Dieu, nous lisons dans la parole de Dieu, elle nous révèle un Dieu qui a déjà pris l'initiative de nous parler. C'est lui qui s'est adressé à nous. Et ce Dieu... Il attend justement de ses créatures qu'on puisse s'adresser à lui et qu'on puisse avoir une relation de père à enfant. Alors, si vous êtes d'accord, et ensemble nous allons voir, puisque la parole de Dieu est vraiment une mine, un trésor de vie, et nous allons nous ressourcer, nous allons, si vous êtes d'accord, nous laisser interpeller par la parole, et vraiment pour rentrer dans ce que représente la prière et un peu prendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire à chacun d'entre nous. Vous êtes partants ? Amen. Alors dans cette première partie, voilà, nous allons voir une j'appelle ça un panorama de la prière dans l'Ancien Testament, et après nous allons centrer, voir comment Jésus priait et quelles sont les leçons à tirer de cette prière. Alors, première partie, c'est pas dans l'Ancien Testament, si nous commençons au tout début, donc nous avons le premier couple, Adam et Ève, qui vivaient en communion avec Dieu dans le jardin d'Éden. La voix de Dieu était accessible et le Seigneur lui-même parcourait le jardin. Il parlait à Dieu comme on parle à une personne qui était juste en face. Et il n'avait pas besoin vraiment, il s'adressait à Dieu naturellement. Donc ça, c'était au tout début. Puis il y a eu le péché. Le péché est entré dans le monde. Et les conséquences du péché, ça a été cette séparation, la mort spirituelle et cette séparation de la communication entre Dieu et les hommes. Et dans Genèse 3, au verset 8, il est dit « Alors, donc c'est après le péché, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourit le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Donc on voit que là, il y a vraiment une séparation. Après, on continue un peu plus loin, à Genèse 4, 26, où après, donc, Adam a eu un fils. Alors, il y a eu donc Abel et Caïn. Caïn, vous connaissez ce qui s'est passé, a tué Abel. Et le premier couple a eu un autre fils, Seth, qui a eu lui-même un fils, Enoch. Et la parole nous dit, Seth eut aussi un fils et il l'appela de nom d'Enoch. Enoch, qui signifie mortel en hébreu. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Dieu. Donc, c'est-à-dire que là, on voit deux générations après Adam, déjà les habitants sur la terre commençaient déjà à ne pouvaient plus s'adresser à Dieu directement, et donc ils avaient vraiment besoin de commencer à invoquer le nom de Dieu parce qu'ils voyaient que sans Dieu, ils étaient perdus, que sans Dieu, il n'y avait que mort, qu'il n'y avait que silence. Et donc, il y avait ce besoin déjà au tout début de l'histoire humaine de vouloir invoquer le nom de Dieu. En effet, quand l'homme sait qu'il est mortel, il cherche quoi ? Il cherche la vie, il cherche comment ? En cherchant Dieu et en voulant rétablir la communication avec la source de vie. Après, un peu plus loin, dans Genèse 18, on voit qu'Abraham, on a quelques exemples dans l'Ancien Testament, des hommes et des femmes de foi, de prière, qui vraiment ont à cœur de pouvoir prier, intercéder et s'adresse à Dieu de manière assez étonnante. Par exemple, Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorre. Alors, vous connaissez l'histoire. Dieu va visiter Sodome et Gomorre et par rapport à tous ses péchés, décide qu'il va détruire la ville. Mais Abraham a dans son cœur également, même s'il déteste le péché, mais il ne veut pas voir tous ses habitants mourir. Et il a une telle envie de vraiment de pouvoir sauver ces personnes, mais également il a une relation simple et vraie avec Dieu. Il est dit qu'Abraham avait une relation amicale avec Dieu. Et il y a ce passage, alors bien sûr on ne va pas le lire, mais ce passage où Abraham intercède pour la ville, pour Sodome et Gomorre, auprès de Dieu. Hein, il lui demande. Il part de 50 justes, puis de 45, de 40, et au final, pour arriver à 10 justes. Il arrive à... Voilà, donc il intercède auprès de Dieu, et vraiment, on a, j'allais dire, il n'hésite pas à... Alors, bousculer, c'est peut-être un peu fort, mais vraiment à dire ce qu'il a dans le cœur. Et c'est quelque chose de très fort. Il intercède, et Dieu ne se fâche pas. Dieu ne lui dit pas, mais qui es-tu ? Tu es une simple créature et tu me donnes un ordre. Il ne lui donne pas un ordre, mais il lui dit ce qu'il a dans le cœur. Et je pense qu'également, nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre cet exemple tel qu'il est et vouloir, premièrement, une relation d'amitié avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu lointain, n'est pas un Dieu père fouettard, mais il veut cette relation amicale. Et qui dit amicale ? Un ami, on peut lui dire des choses dans notre cœur, peut-être même qu'on ne comprend pas, mais des choses vraies. Et donc, autant que Abraham, Dieu attend de nous vraiment une relation fondée sur une amitié. Amitié, c'est-à-dire le connaître, avoir une relation vraie avec notre Seigneur et pouvoir, voilà, dire les choses simplement. Également Moïse, un peu plus loin. Moïse qui s'est tenu dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Donc on a ce passage, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Est-ce que vous voulez avoir cette relation avec Dieu dans vos vies ? Peut-être ça fait des dizaines et des dizaines d'années que vous connaissez le Seigneur, peut-être c'est tout récent, ou peut-être vous vous posez plein de questions. Mais ce que Dieu avait cette relation avec Moïse, Dieu la cherche avec nous, avec chacun de nous. Vous en êtes convaincus ? Également David, le roi David. Le roi David, on connaît sa vie. Il avait un poste très important, roi d'Israël. Il a eu beaucoup de zèle pour le Seigneur, mais aussi une vie remplie d'orgueil, de danger, de faiblesse et de péché. Tout est dans la Bible. Il est l'auteur d'une grande majorité des psaumes. Et pourtant, il avait une relation très forte avec Dieu. Mais non pas parce que c'était un roi, non pas parce que c'était, je ne sais pas, quelqu'un d'extraordinaire. Il avait cette humilité également, une foi de... Parce qu'on connaît tous un peu ses péchés. Qu'est-ce qu'il l'a fait faire? Il est allé... péché de chair, il a fait plusieurs péchés, il a été menacé de mort par son propre fils, mais Dieu lui a pardonné parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Il n'a pas cherché à cacher son péché, il n'a pas cherché à dire « moi je suis le roi, j'ai le droit de tout faire », il n'a pas cherché à dire « ah mais c'est la faute de la femme, c'est la faute de l'homme », non, il s'est humilié. Et Dieu a accepté, Dieu a été interpellé. Dans le psaume 4, au verset 4, nous lisons « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, l'Éternel entend quand je crie à lui. » Amen. Et vous pensez que ce qui est vrai il y a plus de 3000 ans n'est pas vrai aujourd'hui? Lorsqu'on est dans une situation pas, voilà, parce que par le péché, parce que par nos faiblesses, on retombe toujours, parce qu'on n'arrive jamais, on tourne en rond, parce qu'on demande pardon au Seigneur et une semaine après, on retombe. Est-ce que vous pensez que le Seigneur, lorsqu'on crie à lui, il est sourd? Le Seigneur nous interpelle et le Seigneur veut vraiment, nous écoute, il nous entend, il aime quand ses enfants, quand il voit ses enfants qui sont, même quand on veut le louer, et puis de temps en temps, on a le cœur lourd, de temps en temps, on n'est pas bien parce que voilà, il y a un frère, une sœur, ou peut-être dans notre relation avec le Seigneur, et on aimerait se lâcher avec le Seigneur, mais on a toujours une lourdeur. En tout cas, c'est mon cas. Eh bien, le Seigneur dit, entend, il crie, il nous entend quand je crie à lui. Et c'est pareil pour tous. Le Seigneur nous entend. Le Seigneur ne veut pas nous voir toujours tristes ou fatigués ou simplement, ou je ne sais pas, perdus ou dans une relation faussée avec lui. Il veut une relation vraie, simple. Donc c'est ce que le Seigneur a, cette leçon qui, notamment que l'on prend avec, que l'on voit avec David, et cette leçon que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne également, on peut prendre l'exemple d'Esther. Donc il y avait beaucoup d'hommes de prière, mais des femmes de prière. Et Esther, dans le livre d'Esther, on voit que, alors que le peuple juif était menacé d'extermination, alors c'était quand le peuple juif était dans l'Empire perse, était en diaspora dans l'Empire perse. Voilà, Esther avait une certaine position près du roi et il y avait des menaces de personnes pour exterminer le peuple juif. Et qu'est-ce qu'a fait Esther? Est-ce qu'elle s'est mise en colère? Est-ce qu'elle a décidé toute seule de faire, je ne sais pas, de partir, de prendre des armes ou quoi? Elle a demandé au peuple... donc au peuple juif, de jeûner et prier afin de connaître la meilleure façon d'agir face au roi perse. Donc elle a demandé, nous lisons dans Esther, « Va, rassemble, envoya dire à Marchoché, qui est, je crois, son cousin, je ne sais pas si je prononce bien, Mardoché, voilà, vous prononcez mieux que moi. Alors, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi et malgré la loi, si je dois périr, je périrai. » Donc, on voit cet élan de cœur et elle met donc en exercice sa foi. Elle demande à prier, à jeûner et on sait qu'après, comment le peuple juif va être sauvé. Et ceux qui ont ourdi, ceux qui ont pensé l'extermination du peuple juif, seront punis. Donc là aussi, c'est une leçon que nous devons avoir. Comment Dieu, il écoute, il entend, il voit quand nous sommes vraiment, quand nous nous accordons, deux, trois, une église. Dieu entend. Et lorsque nous prions selon sa volonté, il répond toujours. Et que dire d'Élie également? Élie, bien sûr, c'est dans Jacques. Jacques qui nous parle d'Élie. Dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 17, il nous dit, alors juste avant, il est dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité, et Jacques prend l'exemple d'Élie en nous disant, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ça nous paraît extraordinaire. Ça paraît, c'est vrai, c'est l'extraordinaire de Dieu, mais Élie avait cette telle foi qui déplace les montagnes que Dieu lui a permis de réaliser des grandes choses. Alors, on ne va pas demander forcément à Dieu qu'il ne pleuve plus ou qu'il pleuve, mais voilà, d'avoir cette foi qui interpelle, cette foi qui déplace les montagnes. Donc, en prenant ces quelques exemples, j'ai voulu vous montrer, me montrer comment... ce que révèle Dieu, ce que Dieu attend pour avoir une relation simple et forte avec lui. Amen. Et que dire, il y avait des exemples avec, j'aurais pu prendre plein d'exemples, Esdras, Néhémie ou Daniel. Dieu a utilisé des hommes et des femmes dans l'Ancien Testament pour intervenir. Ce n'étaient pas des surhommes ou des demi-dieux, mais ils avaient cette relation forte et vraie avec le Seigneur. Ils avaient un cœur sincère. Et lorsqu'ils péchaient, eh ben, voilà, ils ne cherchaient pas à cacher le péché devant Dieu. J'ai envie de dire, ils jouaient franc jeu, pour parler de manière claire. Mais il y a encore plus extraordinaire et plus bénéfique, c'est lorsque Jésus est venu sur terre. Parce que Jésus, qui est plein de grâce et de vérité, il est venu, bien sûr, pour nous sauver. Il est venu à la croix. Lui, le Dieu fait homme. Lui, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, premièrement, on peut se demander, en effet, certes, Jésus avait une vie de prière consacrée, mais en préparant le message, je me suis dit, mais quand même, il était le Fils de Dieu. Est-ce qu'il ne partait pas avec un certain avantage? Eh oui, quand même. Mais malgré sa divinité, Jésus, homme, avait besoin et recherchait cette relation avec son Père céleste. Lui qui était le Dieu de toute éternité, il est resté Dieu même en étant homme, il a pris une forme humaine pour vivre comme sa créature, en acceptant les limites de la condition humaine. Et Jésus-homme n'avait pas de privilège particulier, mais il était simplement, il s'est mis à notre condition. Dans Philippiens, au chapitre 2 et au verset 7, nous lisons « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. » Et dans Hébreux, au chapitre 4 et au verset 15, il est dit « Alors, qu'il ne puisse compatir, il a été tenté pour nous, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Donc, il est parti de manière la même, il est parti au même début qu'avec nous. Il est notre modèle de prière, sachant qu'il a connu comme circonstance, il a tout connu. Il a été tenté comme nous, la tentation, 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert. Et il a été tenté par le diable. Il a été tenté comme nous. Et qu'est-ce qu'il a répondu au diable quand il le tentait? Il est écrit. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Donc nous aussi, lorsque nous prions, il est bon aussi. Alors la prière, ça doit avoir la liberté. On a cette liberté avec Dieu de dire ce que l'on a dans le cœur. Mais c'est bon aussi de s'appuyer sur la parole de Dieu qui est vie et de rappeler à Dieu sa parole. Parce que Dieu, il aime quand... on lui rappelle, quand on lui chante, quand on lui rappelle sa parole, quand on lui rappelle tout ce qu'il a prévu pour nous, toutes les bénédictions, toutes les prophéties. Dieu est fidèle et Dieu est fidèle dans sa parole. Jésus a été également découragé comme nous lorsque des villes, par exemple, il y avait à Nazareth ou même Chorazin ou Bethsaïda, et ces villes où, comme nous dit la parole, se sont déroulés beaucoup de miracles, mais il y a eu peu ou pas de repentance. Et Jésus a dit « Malheur à toi, malheur à toi ». Il s'adressait à ces villes où la majorité de la population, malgré tous les miracles et toutes les bontés de Dieu, avait un cœur froid, n'ont pas reconnu que Dieu était au milieu d'eux. Il a été déçu par ses disciples, comme nous, nous pouvons être déçus par des frères et sœurs, peut-être par le pasteur, alors je ne dis pas le pasteur, forcément notre pasteur, mais en général, ou des anciens, de manière générale. Mais on est tous des hommes et des femmes. Il a été déçu par ses disciples. Pensez donc, il les a choisis. Il leur a enseigné. Ils sont restés 3 ans, jour après jour avec lui. Ils ont vu, à la première place, ils ont vu tous les miracles qu'il a fait. Ils ne pouvaient pas être dans la meilleure place. Et pourtant, Jésus a été trahi. Il a été renié. Les disciples se sont assoupis. Pendant qu'il était en danger, ils ne comprenaient pas ou si peu ce qui se passait. Ils se querellaient entre eux pour savoir qui allait être au top. Et pourtant, Jésus les a priés, a bénis et vraiment les aimés d'un amour infini. Donc, malgré tout cela, oui, Jésus a ressenti de la déception, mais il est allé au-delà parce qu'il avait vraiment cet amour en lui. Il a été angoissé comme nous. Lorsque nous vivons des moments d'angoisse, que dire quand il était dans le jardin de Gethsémané, où il savait tout ce qu'il allait endurer. Lui, l'innocent, le pur, il a même dit « Seigneur, si tu peux, cette coupe, arrête, si je peux ne pas la prendre. » Et puis après, il s'est repris en disant « Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. » Donc, lorsque nous vivons des temps d'angoisse, sachons que le Seigneur Jésus a vécu des temps d'angoisse, j'allais dire comme nous, encore plus que nous, mais il compatit comme jamais lorsque nous sommes dans l'angoisse, lorsque notre cœur n'est pas en paix. Et il a connu le deuil et pleuré comme nous. Il n'a pas eu honte lorsque Lazare, son ami, est mort. Il a pleuré sincèrement, sachant ce qu'il allait faire pour montrer que Dieu était avec lui, le ressuscité, mais malgré tout, il a pleuré. Donc lorsque nous sommes dans le deuil, lorsque nous avons d'un être cher, peut-être d'un deuil qui est là depuis longtemps et on n'arrive pas à s'en sortir, on a toujours cette tristesse en nous, remettons cela dans les mains de notre Seigneur. Il n'a pas fait semblant ou a cherché à masquer des sentiments, il a exprimé ce qu'il avait dans le cœur, mais il n'a pas laissé justement ses blessures prendre le dessus. Sa relation avec le Père Céleste était primordiale. Après, Jésus a vécu une vie de prière. En effet, Jésus avait, on connaît tous un peu les évangiles, avait une vie de public importante. On dirait aujourd'hui que son agenda était surbooké. Il prêchait à des foules, guérissait les malades, chassait les esprits, ressuscitait les morts, s'invitait chez les personnes pour passer du temps avec elles, enseignait ses disciples. Et pourtant, la relation avec son Père Céleste était primordiale. Il est dit dans différents endroits de la parole, notamment à Matthieu 14 au verset 23, quand il eut envoyé, donc il eut envoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. Donc Jésus se met à l'écart, s'isole et prend un temps d'intimité avec son Père. Il ne se laisse pas surcharger par l'activité, par les événements, mais il prend toujours un moment de plus de recueillement. Également, il priait le soir, il priait la nuit, il priait le matin. Il est dit au tout début de Marc, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nous devons, nous aussi, rechercher des temps de mise à part avec notre Seigneur. Que ce soit le matin, que ce soit le soir, mais pas uniquement pour, j'allais dire, combler un moment, mais vraiment avoir cette relation forte, quels que soient les événements, quels que soient notre agenda, nos occupations. En effet, après, dans même Luc, au verset 9, au chapitre 9, il est dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Là, c'est un exemple, c'est au moment de la transfiguration. Et Jésus également amène avec lui Pierre, Jean et Jacques et les fait prier avec lui. Il apprend à ses disciples aussi comment prier. Justement, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est la prière que ses disciples, c'est la prière, oui, c'est la demande que ses disciples lui enseignent. Ils lui ont dit, voilà, les disciples de Jean le Baptiste, Jean leur a enseigné, leur a appris à prier, et nous, comment devons-nous prier? Alors, il y a cette prière merveilleuse qu'on va méditer ensemble, qu'on va lire, et peut-être même la dire ensemble, c'est le Notre Père. Amen. Donc, c'est à Matthieu au chapitre 6, au verset 9 à 13. Tant que ça s'affiche. Voici donc comment vous devez prier. Donc on peut le proclamer ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Dans cette prière, il y a tout. Il y a vraiment tout résumé, c'est-à-dire d'abord, qui est le Père? Jésus est là et est venu sur terre pour nous montrer le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il nous montre le Père afin que nous puissions le contempler et puiser à sa source. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, le Seigneur veut que vraiment, il nous utilise et il veut qu'on réponde à son appel de nous utiliser pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Et également, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, parce que le Seigneur, c'est lui qui pourvoit en toutes choses, que ce soit des choses matérielles ou des choses spirituelles. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est au cœur de toutes choses et est au cœur du message de Dieu. Parce que sans pardon, il n'y a pas de vie. Sans pardon, si on n'avait pas été pardonné par notre Seigneur, on serait là, on serait perdu à l'éternité. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? Le pardon est au centre de tout. Il nous aime tellement, il nous enseigne, il nous demande, vraiment, il veut qu'on ait cette relation, mais également la relation avec les frères et sœurs. Ce n'est pas uniquement dire j'ai une belle relation avec Dieu et puis je laisse de côté les... Non, il veut qu'on ait cette même relation. Et il dit pardonnez-vous entre vous. Nous sommes tous différents, on a un caractère différent, on a tous une vie différente, des aspirations différentes, mais le Seigneur nous aime tous et toutes d'un même amour. Il nous dit pardonnez-vous, comme nous, moi aussi je vous ai pardonné. Et ce n'est pas une condition, ce n'est pas quelque chose d'optionnel, en disant oui Seigneur, la prochaine fois je verrai si je pardonne. Non, c'est un commandement de notre Seigneur. Donc si nous le disons Seigneur et Sauveur, nous devons nous pardonner. Et si c'est dur, si c'est trop dur, si les blessures sont... nous déposons cela dans les mains de notre Seigneur. Amen. C'est ça aussi faire confiance à notre Seigneur, de dire Seigneur, c'est trop dur. Tu vois, je pardonne avec les lèvres, mais j'ai toujours cette blessure en moi. De dire, Seigneur, je dépose ça. Et je sais que, Seigneur, tu es un Dieu qui est fidèle. Je veux pardonner, mais je n'y arrive pas avec mes propres forces. Mais justement, puisque le Seigneur a tout donné, c'est sa grâce qui nous permet d'avancer. C'est sa grâce qui nous permet de pardonner. Mais nous devons lui obéir. Et nous devons nous laisser transformer par notre relation avec lui. Et enfin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Par cette relation nouvelle avec le Père, il nous demande aussi, par amour, de pouvoir rayonner de sa lumière autour de nous, de pouvoir transmettre, pas uniquement en Église, bien sûr en Église, mais également là où il nous a mis, chez nos voisins, au travail, dans la famille, partout, chez les commerçants que l'on côtoie, d'une manière ou d'une autre, nous devons... nous devons être vraiment, c'est ce, nous devons rayonner de la lumière de Christ. Amen. Voilà, donc contempler, transformer, rayonner, c'est ce qu'on a discerné en Église, notamment par cette vision, ce que le Seigneur nous a mis à cœur, et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et voilà, c'est quelque chose de merveilleux ce que le Seigneur nous donne. Enfin, voilà, que représente la prière pour moi dans ma relation avec le Seigneur? Est-ce que c'est une relation formelle ou un lâcher-prise? La prière est un des fruits de la grâce. J'ai librement accès à l'intimité avec Dieu, mon Père céleste. Pourquoi? Parce que avec l'œuvre, grâce à l'œuvre de la croix, Jésus a déjà tout remporté. Il a dit quoi? Tout est accompli. Sa grâce est totale, gratuite, accessible. Je ne peux rien rajouter ni retrancher. Donc c'est-à-dire que je peux jeûner pendant toute une nuit, pendant plusieurs jours, je peux prier pendant X temps, je ne gagnerai rien, je ne vais rien apporter au Seigneur, parce que le Seigneur m'a déjà tout donné. Amen. Donc si on réalise cela, on réalise qu'est-ce que signifie la grâce dans ma vie. Cela nous... Alors peut-être, c'est vrai, on a tous un orgueil, on a tous une nature humaine, et peut-être parce qu'on aimerait, de temps en temps, oui, je fais ci pour le Seigneur, mais quand même montrer un peu que quand même on est un bon chrétien ou un très bon chrétien. Mais non, mais le Seigneur, il a tout remporté. Donc si le Seigneur t'amène faire des choses, amen, glorifie le Seigneur, partage ton témoignage, mais c'est pour la gloire de Dieu. Oui, il s'est dépouillé de sa gloire divine pour nous montrer le chemin. Cette prière, c'est une réponse à son appel, c'est une réponse à tout ce qu'il nous a donné. C'est un acte de foi et d'amour pour notre Père céleste. Alors, frères et sœurs, oui, tous les jours, voilà, nous sommes dans vraiment un temps particulier en tant qu'Église, où vraiment on sent vraiment cette... où nous discernons la volonté de notre Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait, le pasteur, le conseil, vous les fidèles, personne n'est parfait, on peut faire des erreurs. Le Seigneur, on est humain et souvent c'est dans la faiblesse de l'homme que le Seigneur intervient. Mais soyons conscients que la grâce de Dieu est tout. Paul, vous savez, lorsqu'il avait cette écharde, ces douleurs, il a prié plusieurs fois, trois fois le Seigneur, que le Seigneur lui enlève, lui le guérisse. Et qu'est-ce qu'a répondu le Seigneur? Ma grâce te suffit. Donc oui, la grâce du Seigneur est suffisante. Oui, nous n'avons rien à apporter au Seigneur que notre cœur, notre envie de partager l'amour que l'on a pour notre Père céleste au milieu des frères et sœurs. Le pardon, toujours le pardon, c'est primordial, frères et sœurs. On doit vraiment le... On n'aura pas de... J'allais dire tous les jours, ça sera... Oui, c'est un combat. Oui, tous les jours, on a notre nature humaine qui essaye de nous... Voilà, on a l'ennemi qui essaie de nous rappeler notre ancienne condition. Mais voilà, le pardon est primordial. Et vraiment, lâchons prise avec le Seigneur. Alors, ça peut être instantané, ça peut être plus... Ça demande du temps, mais le Seigneur est un Dieu bon. Et le Seigneur nous bénit, que le Seigneur vous bénisse et que toute gloire lui revienne. Amen. Amen. Père Céleste, merci Seigneur vraiment de nous interpeller encore une fois dans ces moments, Seigneur. Seigneur, tu me travailles, tu travailles mes frères et sœurs, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, c'est une bénédiction que tu nous donnes à chaque instant, Seigneur. Oui, comme dit ta parole, Seigneur, tout est par grâce, Seigneur. Tu nous as tout donné, Seigneur. Et tu veux qu'on ait cette relation. Tu cherches, Seigneur. Tu demandes, Seigneur. Tu es tellement en joie quand on a cette relation d'amour avec toi, cette relation vraie, Seigneur. Qu'on lâche prise, Seigneur, qu'on vienne avec nos péchés, qu'on vienne avec nos insuffisances, Seigneur, tout déposer, qu'on ne te cache rien, Seigneur. Et Seigneur, apprends-nous jour après jour, Seigneur, à pardonner les uns les autres, et également à pardonner si on a blessé, parce qu'on a aussi blessé, Seigneur, et on a été blessé, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, qu'est-ce que l'obéissance, Seigneur. Seigneur, corrige-nous aussi, parce que nous sommes tes enfants. Et comme dit la parole, si vous êtes mes enfants, vous devez vous être corrigés parce que je vous aime. Alors Seigneur, merci Seigneur de nous faire vivre ces temps, Seigneur. Bénis Seigneur, bénis ton Église, bénis les frères et sœurs, bénis ma vie, bénis tous ceux que nous côtoyons, Seigneur, et que toute gloire te revienne. Amen.